Bonjour, nous sommes les Ding Dang Dong et nous vous présentons cette nouvelle émission sur le thème de l'ADN, ainsi que sur les différentes applications de cette découverte. Abordons pour commencer quelques notions de biologie, et plus particulièrement des notions sur l'ADN, les chromosomes et les gènes. Le corps humain est constitué de milliards de cellules comportant chacune un noyau. Ce noyau renferme toutes nos informations génétiques qui est réparti sur les 46 chromosomes formés de 20 à 23 paires. Chaque paire, il y a un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle.
Les chromosomes sont constitués d'ADN qui portent les gènes, 20 000 environ. Le gène est un élément d'information héréditaire situé sur un chromosome. Chaque gène correspond à un caractère héréditaire particulier. La molécule d'ADN, également connue sous le nom d'acide désoxyribonucléique, se trouve dans toutes nos cellules. C'est le plan détaillé de notre organisme, aussi appelé le code génétique. Il contient toutes les informations nécessaires au développement et au fonctionnement du corps. Comparable à un langage, l'ADN porte et transmet des messages exprimés par nos gènes en protéines. Les gènes sont comme des mots à milliers de caractères, explique M. Roland Barriot, bioinformaticien et chercheur à l'Université de Toulouse. Source, article de Clara Moller, journaliste issue de dossier Langage. Ces informations génétiques, massives et codées, sont déchiffrées et lues par les scientifiques grâce à la bioinformatique. Aujourd'hui, à moins d'une erreur de lecture, les gènes du génome humain semblent être tous identifiés. L'essor de la bioinformatique au milieu des années 2000 aide les scientifiques à analyser toute cette information codée. À l'époque où une manipulation en laboratoire permettait d'observer quelques gènes, une simulation sur ordinateur en traite des milliers et offre une approche globale au niveau d'un organisme.
Quel est l'intérêt de connaître l'intégralité du génome humain ?
Si chaque individu possède son propre génome, une grande partie de l'ADN est commune à tous les êtres humains. Grâce à la lecture informatique des protéines, dont la méthode est appelée séquençage du génome, on sait que ce patrimoine génétique commun correspond à 99% de notre ADN. Seul le pourcent restant constitue la différence entre les êtres humains.
Mais de quoi est composé l'ADN ?
L'ADN est constitué de quatre éléments complémentaires, les nucléotides qui sont l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine, A, T, G, C. Le gène, quant à lui, est un morceau de cet ADN qui correspond à une information génétique particulière. C'est une très petite portion de chromosome. Comme le chromosome, chaque gène est également présent en double dans nos cellules. Ces deux copies d'un même gène, appelé allèle, sont le plus souvent différentes. Une est d'origine maternelle et une autre d'origine paternelle. Les gènes indiquent à chaque cellule son rôle dans l'organisme. Sur l'ordre des gènes, les cellules synthétisent les protéines. C'est la traduction du code génétique. L'information comprise dans les gènes s'exprime en protéines et les chercheurs analysent ces informations codées. Nous produisons des dizaines de milliers de protéines. Ces protéines sont des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes et chacune a un rôle différent à jouer dans notre organisme. Par exemple, l'hémoglobine est la protéine qui sert à transporter l'oxygène dans le sang. Les anticorps, quant à eux, protègent l'organisme des corps étrangers. D'autres protéines interviennent pour définir la couleur des yeux ou la forme du visage, etc.
Faisons à présent une pause avec un titre de Tal issu de l'album « Juste un rêve » qui s'intitule « L'ADN ».
Je voyais partir ma suivi mon rêve. J'ai mal à l'âme, à l'ADN. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'en reviennes? Parfois, tu sais, je retiens ma peine. Je retiens ma peine. Pas longtemps, mais l'amour d'un père reste dans les gènes. C'est comme ça et pas autrement. Ton absence me pèse, mais j'ai fait mon bout de chemin. J'ai suivi mon rêve. J'ai mal à l'âme, mal à l'ADN. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu me reviennes. Parfois, tu sais, je retiens ma peine. Je retiens ma peine.
Abordons à présent un peu d'histoire. Les débuts de la découverte de l'ADN. Madame Rosaline Franklin a été la pionnière dans l'une des découvertes scientifiques les plus importantes du XXe siècle. Elle est née le 25 juillet 1920 en Angleterre. Passionnée de science, Rosaline Franklin a étudié brillamment la chimie jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat. Elle obtient son doctorat en 1945 à l'université de Cambridge, puis se rend à Paris pour travailler au laboratoire central des services chimiques de la ville. En 1951, elle prend un poste au King's College de Londres pour étudier l'ADN, puis le virus de la poliomyélite. Elle a participé de manière déterminante à la découverte de la structure de l'ADN au Royaume-Uni. Elle est morte le 16 avril 1958. Elle était physico-chimiste. Le 18 octobre 1962, le prix Nobel est attribué à James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkus à la découverte en double hélice de l'ADN. Pourtant, on le doit à Rosaline Franklin, pionnière de la biologie moléculaire.
Abordons à présent l'histoire du test ADN. Source France Paternité, le droit à la vérité, l'histoire du test ADN.
Avant même l'apparition des tests ADN, la communauté scientifique a eu recours à différents outils biologiques pour identifier les personnes. Parmi ces techniques, on peut citer le test sérologique, les tests HLA et le groupage sanguin. Malheureusement, l'identification génétique n'a pas été toujours concluante. Ce n'est que l'apparition des tests ADN que le potentiel de la génétique a pu être pleinement exploité. En effet, l'analyse ADN permet de connaître les parents biologiques d'une personne et de connaître son identité. La précision offerte par cette technique est sans précédent.
Depuis quand le test ADN existe ?
Historiquement parlé, la première apparition du test ADN remonte aux années 70 et 80. Toutefois, la police scientifique et les services de la génétique depuis plus longtemps. L'hérédité d'un groupe sanguin fut reconnue depuis les travaux de Mendel, mais ne sera pourtant démontrée que quelques décennies plus tard. Les laboratoires de la police scientifique ont réalisé les premières comparaisons de marqueurs génétiques entre 1970 et 1985. Cependant, il n'était pas encore question de la recherche ADN. Les analyses de l'époque demeuraient complexes, étant donné les technicités utilisées étaient encore rudimentaires. De plus, la réalisation d'un seul test ADN pouvait prendre des semaines, ce qui explique d'ailleurs le prix d'un test ADN assez élevé au tout début. À cette période, les tests simples permettaient d'identifier les marqueurs génétiques tels que les rhésus et les groupes sanguins A, B, O.
1980, les premiers tests ADN. Les tests ADN ont fait leur apparition au cours des années 1980. Concernant le test de paternité, l'ADN de l'enfant est hérité de ses parents, à 50% chacun. Une moitié de son ADN doit donc correspondre au profil génétique de son père et l'autre moitié à celui de sa mère.
Comment identifier l'ADN ?
Pour les êtres humains et plusieurs animaux, les échantillons d'ADN sont souvent extraits du sang ou de cellules de peau. Le moyen le plus facile de recueillir des cellules de peau pour les êtres humains consiste à frotter l'intérieur de la joue avec un coton-tige. Cela s'appelle un échantillon buccal.
Est-il légal de faire un test ADN en France ?
En France, un test génétique ne peut être réalisé que sur demande du tribunal, dans le cadre, par exemple, d'une recherche de paternité ou par un médecin à des fins médicales ou de recherche scientifique. Le législateur souhaite ainsi protéger la famille, refusant que le tout génétique régisse la filiation. Sur Internet, des tests ADN sont proposés pour des prix allant de 200 à 500 euros. Source servicepublic.fr. Écoutons maintenant un titre, ADN Occitan, chanté par Jeff Sénégas.
Dans mes chaînes serpentent l'ADN occitan, mes troubadouris chantent la mémoire d'antan, délicieuse romance bercée aux quatre vents, file mon existence dans son déroulement. La torche qui m'anime brûle depuis longtemps, étincelle divine embrasée par les temps. Sa flamme me butine de caresses en tourment, et avec moi chemine la traverse des ans. Avec moi chemine la traverse des ans. Dans mes veines circule le sang de tous mes gens, la ville que virgule sur la ligne du temps. De l'immense puits de siècles intrigants se glissent mes racines attirées comme aimant. La langue de mon père est un précieux présent, symbole de ma terre parfois saignée à blanc. Ciselée sur mon cœur, la croix d'or et de sang, donne-moi le bonheur d'être né occitan. Sur mon cœur, la croix d'or et de sang, donne-moi le bonheur d'être né occitan. Éclairée depuis le firmament, les témoins du sacré traversent le présent, pénétrant ma pensée de mille filaments, par ces valeurs passées qui forgent le vivant. De la vigne de l'homme à l'ivresse d'autant, de l'empreinte de Rome au cathare brûlant, ciselée sur mon cœur, la croix d'or et de sang, donne-moi le bonheur d'être né occitan.
Découvrons à présent en quoi consiste la thérapie génique. Aujourd'hui en France, les maladies génétiques touchent plus de 3 millions de personnes. Source Actu Santé, publiée le 19 juillet 2023. Avec plus de 30 000 nouveaux cas diagnostiqués en moyenne chaque année, il s'agit d'un véritable problème de santé publique. La thérapie génique fait partie des espoirs thérapeutiques les plus innovants pour traiter ces pathologies. La thérapie génique a vu le jour dans les années 60. Selon l'INSERM, elle est également appelée génothérapie. Elle consiste à introduire du matériel génétique dans des cellules pour soigner une maladie. Source FHC-MCO, médecine clinique obstétrique. Cette approche a été conçue pour suppléer le gène défectueux en cas de maladie monogénique, c'est-à-dire liée à la dysfonction d'un seul gène. Elle consiste à délivrer aux cellules un gène sain, capable de suppléer le gène malade. Cette technique peut être effectuée soit directement dans l'organisme du patient, soit en laboratoire, avant de les réinjecter au malade. Cette technique est aujourd'hui intégrée au sein d'un réseau de recherche financé depuis 2017 par la région Île-de-France. Le DIM, domaine d'intérêt majeur, le DIM a permis la structuration du réseau d'excellence autour d'une stratégie thérapeutique de médecine personnalisée. Depuis 2017, des accomplissements majeurs ont été réalisés. 12 millions d'euros dédiés à la recherche en thérapie génique, plus de 25 millions d'euros de financement additionnés levés par le réseau provenant de collaborations industrielles ou de financements publics-privés. Création d'une start-up en cours. Au cours des deux dernières décennies, l'évolution rapide des connaissances et des technologies a permis de démultiplier les stratégies possibles et d'élargir leurs utilisations à de très nombreuses indications, dont certains cancers. Des succès majeurs ont été obtenus lors d'essais cliniques et le domaine est en plein essor. Plusieurs médicaments de thérapie génique sont aujourd'hui sur le marché, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Source INSERM.
Et l'ADN médicamenteux, alors, comment ça marche ?
Ce sont donc des gènes ou des fragments de gènes qui sont administrés au patient pour le traiter. Le but recherché est de modifier génétiquement les cellules du patient. Le concept de l'ADN comme médicament a été pressenti dès 1944 lorsqu'Oswald Avery découvre la nature biochimique des gènes. Le docteur Oswald Avery a fait sa plus grande contribution à la médecine en 1944. En collaboration avec ses collègues Colin MacLeod et McLean McCarthy, il a en effet révélé que la substance, c'est-à-dire le gène, qui pouvait transformer un type de pneumocoque en un autre, était l'acide désoxyribonucléique ou ADN.
Voyons à présent quelles sont les principales maladies traitées par la thérapie génique. Certaines maladies hématologiques, comme l'hémophilie, qui est une maladie génétique caractérisée par des hémorragies spontanées dues à un déficit en facteurs de coagulation. Et également comme la drépanocytose, qui est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges. Certaines maladies dermatologiques sont également traitées par thérapie génique, comme certains cancers, comme par exemple la leucémie de type B et aussi les mélanomes. Sans oublier la mucoviscidose et certaines maladies ophtalmiques. Et bien d'autres encore, cette liste n'étant pas exhaustive. Source INSERM, dossier thérapie génique. De nombreux médicaments peuvent contenir des protéines produites par le biais de bactéries, levures ou cellules génétiquement modifiées. On peut citer l'insuline utilisée dans le traitement du diabète, produite par une bactérie Escherichia coli modifiée, certaines hormones de croissance ou encore des protéines utilisées dans le traitement de certains cancers. Source, ministère de la Transition écologique.
En fait, l'adaptation des médicaments à l'ADN ouvre une nouvelle ère de la médecine. Dans l'article de la parution du magazine Santé et Technologie du 8 avril 2022, M. James Gallagher, correspondant pour la santé et la science sur BBC News, a déclaré que, je cite, « Nous disposons de la technologie nécessaire pour ouvrir une nouvelle ère de la médecine en faisant correspondre les médicaments au code génétique des personnes. En effet, certains médicaments sont totalement inefficaces ou deviennent mortels en raison de subtiles différences dans le fonctionnement de notre organisme. » La British Pharmacological Society, qui est une coopération de scientifiques dans le monde pour promouvoir la recherche en pharmacologie située à Londres, et le Royal College of Physicians, qui est une institution médicale d'Angleterre des plus actives, située à Londres également, toutes deux affirment qu'un test génétique peut prédire l'efficacité des médicaments dans l'organisme. Ces tests pourraient être disponibles au système de la santé publique du Royaume-Uni, le National Health Service, l'année prochaine. Nous vous proposons maintenant une pause musicale avec Elton John et le titre s'intitule Sorry Seems to Be the Hardest Word.
Échappé à personne que les médias ont beaucoup parlé de l'ARN pendant la période Covid-19 et surtout de l'ARN messager qui entrent dans la composition de nos vaccins proposés, pour ne pas dire imposés, aux populations durant cette période. Mais revenons tout d'abord sur la notion d'ARN. ADN et ARN, définition et fonction. L'ADN et l'ARN, respectivement acide désoxyribonucléique et acide ribonucléique, sont des molécules qui présentent des différences au niveau de leur structure et de leur fonction dans la cellule. L'ADN représente la matrice de toutes les cellules d'un organisme et comporte le cryptage des gènes. Ces gènes sont exprimés sous la forme d'ARN, ARN codant et ARN non codant. Ces gènes permettent la synthèse des briques élémentaires de la vie, favorisent certaines réactions enzymatiques et permettent une régulation extrêmement complexe de tous ces éléments. Contrairement à l'ADN, qui est défini à la naissance et change peu au cours de la vie, l'ARN est en constante évolution, reflétant l'état de santé général de la cellule, de l'organe et de l'organisme auquel il appartient. Connaître nos gènes ou ceux qui sont pertinents nous aide à prendre en charge notre santé. Si l'ADN est notre modèle, l'ARN est ce qui nous aide à mettre en œuvre le plan. Les ARN sont plus changeants et moins stables que l'ADN, explique le docteur Sharad Paul, chirurgien cancérologue néo-zélandais et auteur de The Genetic of Health, une étude sur le rôle que jouent les gènes dans la vie.
Et l'ARN messager alors ? Comment ça marche ? Voyons les explications du gouvernement français, consultables sur le site gouvernement.fr, principe du vaccin contre la Covid-19, dernièrement utilisé.
Pour concevoir un vaccin à ARN messager, il faut d'abord séquencer le génome du virus, puis déterminer quelle partie de ce virus il faut lutter. Une fois isolé, ce tronçon est copié. On appelle cette copie l'ARN messager. Dans le cas de la Covid-19, il faut combattre la protéine S. Ces protéines S, avec leurs épines, sont la clé du virus pour entrer dans les cellules. L'objectif est d'éduquer le système immunitaire en injectant dans l'organisme l'ARN messager. Cet ARN messager ordonne aux cellules humaines de fabriquer des protéines S. Cette production de protéines S active une réponse immunitaire qui est censée déclencher la fabrication d'anticorps. Si le virus entre à l'avenir dans l'organisme, il devra être reconnu et rapidement détruit par les anticorps.
Et sans transition aucune, nous allons aborder à présent la notion d'OGM. L'acronyme OGM signifie « organisme génétiquement modifié ». Sur le plan scientifique, il n'existe pas de définition unique, mais le terme est généralement associé à un organisme animal, végétal, bactérie, qui a été modifié par des techniques de génie génétique. Ces techniques réalisées en laboratoire permettent d'ajouter de nouveaux gènes ou de supprimer ou de modifier des gènes déjà présents dans l'organisme afin de lui en faire généralement acquérir de nouvelles caractéristiques. D'un point de vue réglementaire, les textes européens et en particulier la directive européenne 2001/18/CE définissent qu'un OGM comme un organisme de l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et ou par recombinaison naturelle. Source, site gouvernemental ecologie.gouv.fr. Aujourd'hui, la création d'OGM sert surtout dans l'agriculture à rendre une plante résistante à un herbicide ou à la modifier pour qu'elle produise elle-même un insecticide ou les deux. Ainsi, cela permet d'utiliser des herbicides sans crainte de tuer les plantes génétiquement modifiées et d'éviter le recours à un insecticide pendant la croissance des plantes puisqu'elles sécrètent elles-mêmes. Cependant, qui peut connaître comme progrès présent une réalité de nombreux risques ? Et les semenciers et les industriels de l'agrochimie font pression pour que certains OGM produits par de nouvelles techniques de modification génétique, les NBT pour News Breaking Technique, échappent à la réglementation en vigueur. Source greenpeace.fr, qu'est-ce que un OGM, publié en 2016.
Il est à noter qu'au sein de l'Union européenne, le maïs MON 810 est le seul maïs autorisé à la culture. Il a été modifié pour acquérir une résistance à certains insectes ravageurs. Il n'est cultivé qu'en Espagne et au Portugal. Cependant, les OGM représentent une menace sur l'environnement au travers d'une contamination incontrôlable. En effet, la mécanique est simple. Les OGM sont des organismes vivants. Ils peuvent donc se reproduire et opérer des croisements avec d'autres plantes dans la nature. Aucune mesure ne permet de prévenir réellement ces contaminations croisées. Or, elles présentent un risque de dommages irréversibles pour la biodiversité et les écosystèmes. Les plantes génétiquement modifiées peuvent se croiser avec des variétés sauvages et disséminer leurs gènes de manière incontrôlée dans la nature. À titre d'exemple, une plante génétiquement modifiée pour être tolérante à un herbicide risque de transmettre cette tolérance à des plantes sauvages de la même famille. Mais également, les plantes OGM qui produisent une protéine insecticide peuvent ne pas être nocives uniquement pour les insectes cibles, mais peuvent aussi affecter d'autres espèces d'insectes dites non cibles qui jouent un rôle dans l'équilibre écologique global en étant par exemple prédateurs de parasites. Enfin, l'utilisation en continu de ces plantes génétiquement modifiées pour sécréter des insecticides favorise l'apparition chez les insectes cibles de la résistance à la molécule insecticide. Il est à noter également que les cultures d'OGM sont exportées vers les pays riches et sont destinées essentiellement à la nourriture animale et à la production de biocarburants.
De plus, l'innocuité des organismes génétiquement modifiés utilisés dans l'alimentation animale ou humaine n'a jamais été prouvée. Il n'y a aucun consensus scientifique permettant de dire qu'ils sont sans danger. Les OGM autorisés à l'importation et à la mise sur le marché dans l'Union européenne sont également autorisés en France pour les mêmes usages. Leur commercialisation est soumise aux exigences prévues dans la réglementation européenne, notamment aux règles de traçabilité et d'étiquetage. Sauf si le produit commercialisé contient moins de 0,1% d'OGM, les sources sont ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Autrement dit, on ne cultive pas d'OGM en France, car nous le rappelons, la culture en est interdite à des fins commerciales depuis 2008, mais on en achète qui viennent de pays où on en produit. Tristement, c'est de manière assez logique que les OGM se retrouvent dans nos assiettes et donc dans notre corps. Cette mécanique est encore mal connue de la communauté scientifique et de nombreuses recherches doivent être encore réalisées à ce sujet. Demain, aurons-nous toujours le choix de ne pas consommer des OGM ? La culture et la consommation des organismes génétiquement modifiés présentent ainsi de nombreux risques. C'est pour cela que l'Europe a mis en place une réglementation stricte encadrant leur utilisation. Cette réglementation est justifiée par l'application du principe de précaution et nous permet d'avoir le choix de consommer et de cultiver ou non des OGM.
Les autres utilisations des OGM concernant la recherche fondamentale pour mieux comprendre certains mécanismes biologiques, l'industrie afin de produire certaines molécules d'intérêt, la santé où des micro-organismes OGM sont utilisés pour la production de vaccins ou de médicaments, insuline par exemple, ou encore comme vecteur contre les thérapies géniques. Il faut savoir que des millions d'animaux transgéniques sont chaque année utilisés en laboratoire à des fins de recherche. Ce sont principalement des rats, des lapins, des chèvres, des vaches, et ils sont utilisés pour étudier les mécanismes génétiques, miner les maladies humaines, tester ou synthétiser les molécules. Selon les rapports de la Commission européenne, 2,59 millions d'animaux génétiquement modifiés ont été utilisés à des fins de recherche en 2017 dans l'Union européenne. Cependant, peu d'animaux transgéniques ont été autorisés à la commercialisation au niveau mondial. Au Canada, des saumons transgéniques ont été commercialisés. Enfin, des moustiques, également modifiés, sont utilisés dans le cadre de la lutte anti-vercoriel, Ainsi, des moustiques, Aedes aegypti, tranche de la lutte anti-vectorielle, transgéniques ont été disséminés au Brésil et aux États-Unis pour lutter contre de nombreuses maladies vectoriennes comme le paludisme, par exemple. Par ailleurs, certains biocarburants sont produits à partir de colza transgénique.
Nous pouvons à présent aborder le clonage.
Alors, le clonage, qu'est-ce que c'est ? C'est la reproduction d'un individu animal ou végétal à partir d'une de ses cellules. Cette technique permet d'obtenir un ensemble de cellules à partir d'une seule. La première expérience de clonage remonte à avril 1996 avec la brebis Dolly. Afin de cloner cet animal, il a fallu prélever un ovocyte du donneur. Alors, un ovocyte, nous le rappelons, est un ovule immature femelle qui devient mature une fois fécondé. On l'appelle alors ovocyte. Il a fallu ensuite retirer le noyau de cet ovocyte, le remplacer par le noyau d'une cellule somatique d'un autre mammifère, comme une brebis par exemple, afin que ce nouvel ovocyte comprenne un bagage génétique complet. Puis, il a fallu provoquer la division cellulaire de ce nouvel ovocyte afin qu'il puisse engendrer un embryon. Puis, cet embryon a été implanté dans une brebis porteuse qui a donné naissance à Dolly, la première brebis clonée.
Cependant, il existe différents types de clonage. En ce qui concerne les plantes, il existe le clonage naturel. C'est un type de clonage effectué sans intervention technologique ou humaine, comme le bouturage ou le marcottage en milieu naturel. Le marcottage consiste en l'enracinement d'une partie de la plante mère, tige, sans qu'elle ne s'en détache, puis, au contact du sol, la tige peut s'enraciner et former une nouvelle plante. Le clonage naturel a lieu lorsqu'une partie de la plante tombe au sol et s'enracine naturellement. Le bouturage, lui, est un prélèvement d'une partie d'une branche ou d'une tige que l'on place dans l'eau afin de créer des racines.
Nous terminerons ce sujet passionnant avec l'ADN environnemental, ou ADNE. Cet ADN environnemental est défini comme l'ADN pouvant être extrait à partir d'échantillons environnementaux tels que l'eau, le sol ou les déjections, sans avoir besoin d'isoler au préalable des organismes cibles, source Spigen. L'ADNE est un procédé scientifique sans impact et performant. Le principe est d'identifier des traces d'ADN présentes dans les échantillons environnementaux. L'ADN environnemental peut être utile aux naturalistes, par exemple, pour découvrir les nouvelles espèces vivantes, comme des bactéries, quelle que soit l'eau, le sol, les poils, les sécrétions, etc. Par exemple, l'OFB, ou Office français de la biodiversité, accompagne le premier programme suivi des espèces de poissons d'eau douce en France par la technique de l'ADN environnemental. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous remercions les auditeurs pour leurs écoutes sur Fréquence Mistral de nous avoir reçus. Très bonne journée à tous. Nous vous retrouvons au début d'été pour une nouvelle émission. Au revoir.
Écoutons pour finir la chanteuse et musicienne Capucine Olivier dans le titre « Comme il m'apparaît ce soir ». En anglais, cela donne « The way of you look tonight », musique de Jérôme Kern et paroles de Dorothy Field.
Songez à mon cœur qui bat pour ce bel amour. Imaginez l'espoir qui m'emporte comme il m'apparaît ce soir. Et pensez à lui, le sel sur sa peau, le feu sur ses joues. C'est me brûler au soleil de minuit, simplement penser à lui. Passent les heures et le parfum des fleurs, mes tourments et mes peurs. Je lui donne étourdi, ravi, l'empire sur mon cœur. Pour lui, même si jamais une reine ne fait le premier pas, moi j'accours, je traîne, je m'abandonne comme il m'apparaît ce soir. Tout